Bonsoir. Nous allons pouvoir commencer. Donc, je remercie Anne-Marie Combre et Stéphane Habib d'avoir accepté d'être avec moi ce soir pour participer, pour contribuer à notre cinéma. Il ne marche pas. Il faut que je donne la voix. Un peu. Je disais donc que je remerciais Anne-Marie Combre et Stéphane Habib d'être avec moi ce soir pour animer cette soirée d'école. Alors, donc, nous allons procéder de la manière suivante. Je vais me livrer à l'exercice du commentaire de texte d'abord. Dans un deuxième temps, ce sera Anne-Marie Combre de vous présenter son travail sur l'écrit de jouissance. Et enfin, Stéphane Habib qui nous parlera d'amour. Alors, auparavant, à la demande de Sybille Guillem, je voulais vous informer, vous rappeler surtout plutôt, que Toulouse reçoit le 22 mars 2014 la journée nationale des collèges cliniques sur l'inconscient et le corps, qu'il y a une soirée avec des places limitées. Pardon. Inscrivez-vous le plus rapidement possible. C'est du compact, oui, parce que c'est pas une soirée des collèges cliniques. Donc.
C'est une soirée avec un récital, le chant, quand même à passer,
Très bien, je n'en doute pas, comme toujours à Toulouse. Très bien, vous avez entendu? Parfait. Alors, je vous présente mes voeux pour la nouvelle année, comme on dit. Par cette formule, je ne satisfais pas seulement à un rituel ou à une tradition. Je cite les mots prononcés par Lacan pour introduire la séance du séminaire du 10 janvier 1968. C'est en effet au cours de ce séminaire, et non comme il l'énonce par erreur en 1971-72 dans Oupire, donc c'est en janvier 1968, que Lacan fait état pour la première fois du poème de Rimbaud à une raison. En 1968, le poème de Rimbaud, tiré de son recueil Illumination, était convoqué par Lacan pour en extraire ce qu'il appelle la formule de l'acte, notamment dans son rapport au commencement et au franchissement. Retenez ces deux mots, nous y reviendrons. Et déjà, Lacan y inscrivait la question du signe. Alors, le passage qui m'a paru important de rappeler est le suivant. Franchir le Rubicon n'avait pas été pour César une signification militaire décisive. Mais par contre, le franchir, c'était rentrer sur la terre-mère, la terre de la République, celle qu'aborder, c'était violer. C'était là quelque chose de franchi, dans le sens de ces actes révolutionnaires que je me trouve, bien sûr pas sans intention, à voir profiler là derrière. L'acte était-il au moment où Lénine donne tel ordre, ou au moment où des signifiants ont été lâchés sur le monde, qui donnent un tel succès précis dans la stratégie, son sens de commencement déjà tracé? Quelque chose où la conséquence d'une certaine stratégie pourra prendre sa place et y prendre valeur de signe. Et c'est à ce point que Lacan pose ce qui va rendre raison de la référence au poème de Rimbaud. Après tout, dit-il, la question vaut bien d'être posée ici à un certain départ, car il y a dans la façon dont je vais m'avancer sur le terrain de l'acte aussi un certain franchissement d'évoquer cette dimension de l'acte révolutionnaire et de l'épingler de ceci, de différent de toute efficacité de guerre, et qui s'appelle susciter un nouveau désir. Susciter un nouveau désir. Et donc c'est à ce point que Lacan évoque le poème de Rimbaud, un passage du poème, donc, dans lequel Rimbaud, s'adressant à la raison, dit ceci: un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. Un pas de toi, c'est la levée de nouveaux hommes et leur en marche. Ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour. Alors, je pense, dit Lacan pour terminer, qu'aucun de vous n'est sans entendre ce texte de Rimbaud, pardon, que je n'achève pas et qui s'appelle « À une raison ». C'est la formule de l'acte, donc 10 janvier 1968. C'est donc ce même poème des Illuminations que Lacan convoque de nouveau, 5 ans plus tard, dans son séminaire du 19 décembre 1972, encore donc, en présence de Jacobson. Hommage est rendu à ce dernier, mais l'occasion était trop belle pour que Lacan ne s'en saisisse pour exprimer son seul désaccord avec ce que Jacobson avait développé dans les entretiens au Collège de France durant les jours qui ont précédé. Et ce désaccord porte sur la thèse de Jacobson selon laquelle tout ce qui est du langage relèverait de la linguistique, c'est-à-dire en dernier ressort du linguiste. Alors, même si Lacan concède à Jacobson la validité de sa thèse concernant le langage quant à la poésie, à propos de laquelle Jacobson avait énoncé cette thèse, Lacan considère que cette thèse ne tient pas suffisamment compte de la dimension de l'inconscient, structuré comme un langage, et donc de ce qui, du langage, fonde le sujet qui, en retour, ce langage le subvertit. D'où sa proposition, la proposition de Lacan, d'appeler linguisterie, et non pas linguistique, le domaine réservé, la linguistique étant le domaine réservé de Jacobson, il propose d'appeler linguisterie ce qui s'occupe du langage habité et subverti par le sujet, soit par l'individu qui est affecté de l'inconscient. Alors, dès cette position du problème, du rapport du linguiste et de l'analyste, en l'occurrence de Jacobson et de Lacan, émerge, pour ainsi dire, la question de l'amour, puisque Lacan fait expressément référence au fait que Jacobson, je le cite, « m'a à la bonne », autrement dit « même ». C'est la façon dont j'exprime ça dans l'intimité. Je cite Lacan. Donc Lacan énonce, ce n'est pas lui qui aime Jacobson, c'est Jacobson qui l'aime, il y a amour, amour de transfert. Fallait le dire. C'est donc sur ce fond, qu'il convient de situer le passage que je vais à présent commenter. D'emblée, Lacan isole les deux points qui l'intéressent dans ce poème. D'abord son titre a une raison, et notamment le signifiant raison, et l'expression le nouvel amour, qui scande d'ailleurs non pas chaque verset, comme Lacan le dit dans le texte, mais le verset central du poème seulement. Et le projet de Lacan n'est autre que de reprendre la question de l'amour, évoquée dès la séance du 12 décembre, donc aux pages 11 et 12 d'encore, avec l'idée encore de marquer la distance qui sépare le psychanalyste du scientifique, la linguisterie de la linguistique. Alors, lisons à présent le poème de Rimbaud entièrement. Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en marche. Ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour. Change-nous l'eau, crible les fléaux, à commencer par les temps, te chantent ses enfants. Élève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux, on t'en prie. Arrivée de toujours, qui t'en ira partout. Alors, donc, de ce texte, il y a bien sûr les lectures et les interprétations des écrivains, des critiques, des philosophes, hein, que ce soit Charles, que ce soit Marcelin Plaigné, que ce soit Philippe Soler, etc. Pour donner une petite indication et mesurer la portée de ce qu'apporte Lacan, je propose ce qu'en disait Soler, c'est dans le livre qu'il a consacré à Rimbaud, qui s'appelle « Illumination », qui est paru en 2003. Rimbaud, parlant de ce poème, Rimbaud appelle à la création d'une nouvelle raison. S'agit-il de rejeter la nôtre ? Nullement. Il s'agit de l'ouvrir non seulement à un dépassement d'elle-même, mais encore à une aventure qui, dès lors, ne se conçoit pas sans un nouvel amour, entre guillemets. Rimbaud le dit d'ailleurs, ailleurs, l'amour est à réinventer. Alors, s'agissant du nouvel amour, l'éditeur de Rimbaud dans la Pléiade, Antoine Adam, rappelle dans une note que Rimbaud avait à ce propos une doctrine, qu'il résume donc en ces termes. L'une des idées maîtresses de Rimbaud en 1871 avait été la doctrine du nouvel amour. L'amour au-delà des servitudes de la race, de la classe sociale, du sexe même. L'amour affranchi de toutes les vieilles morales, Rimbaud y a cru. Il a pensé que le règne du nouvel amour allait s'établir parmi les hommes et que son avènement était proche. À une raison annonce la nouvelle harmonie, car la raison n'est autre que l'amour. Un pas d'elle et les hommes nouveaux se mettront en marche et le sort de l'humanité sera changé, les vœux, les fortunes seront portés à des hauteurs inconnues, encore insoupçonnées. Donc vous trouvez ça, page 988 de la Pléiade. Donc Lacan, quant à lui, se saisit des signifiants raison et nouvel amour pour les inscrire, pour ainsi dire, ni plus ni moins, dans le discours analytique. Alors, je vais condenser en trois points les différentes propositions et thèses qui sont repérables dans ce passage. L'amour, je cite Lacan, l'amour, c'est dans ce texte, celui de Rimbaud donc, le signe pointé comme tel de ce qu'on change de raison. Et c'est pourquoi le poète s'adresse à une raison. On change des raisons, c'est-à-dire on change le discours. Alors, il ne s'agit pas, je le dis d'emblée, d'une thèse générale de Lacan sur l'amour, mais de ce que, selon lui, en articule le texte de Rimbaud. Ce qui se lit dans ce texte, en effet, et ce qui est très nouveau, c'est tout d'abord le rapprochement inédit, donc surprenant, de la raison et de l'amour. D'ordinaire, la raison, qu'on la prenne sur le versant du raisonnable ou sur le versant du rationnel, renvoie plutôt à la froideur, à la rigueur et au calcul. Et jamais à l'amour, qui, davantage qu'un affect ou un sentiment, est avant tout, en tout cas selon Lacan, une passion et même une passion de l'être. Rimbaud opère donc un retournement en rapprochant raison et amour. Il s'adresse en la tutoyant à une raison. Là aussi, il y a un passage. Ce n'est pas la raison, c'est une raison, déjà dans le poème de Rimbaud. Donc, non pas à la raison, mais à une raison, posant par là même que raison, que de raison, pardon, il n'y en a pas qu'une. Ce qui conduit à penser que de raison, on peut aussi bien en changer. Autrement dit, il y a passage possible d'une raison à une autre, par exemple d'une ancienne à une nouvelle. Et en l'occurrence, c'est à l'avènement de la nouvelle raison que Rimbaud semble associer l'émergence du nouvel amour. Alors là aussi, je vais faire référence à Solers. Philippe Solers semble identifier cette raison à la modernité, voire au discours de la science et à ses effets, d'universalisation. C'est une perspective stimulante, mais qui semble méconnaître qu'en tant qu'idéologie de la suppression du sujet, ce discours a partie liée avec ce que Lacan appelait la forclusion des choses de l'amour. Alors, ce que Lacan, lui, ajoute aussitôt, et qui témoigne vraiment de la spécificité de son approche, c'est la congruence qu'il établit entre la raison et le discours, entre raison et discours. Alors, je rappelle le passage, on change de raison, c'est-à-dire on change de discours. Alors, cela peut surprendre, mais à y réfléchir un peu, rien de plus évident. Il suffit de se souvenir que dès l'instance de la lettre, Lacan pensait déjà en termes de raison depuis Freud. Ce qui, bien sûr, peut s'entendre au sens de la réforme de la raison qu'implique la découverte freudienne de l'inconscient, mais aussi au sens de l'avènement avec Freud de ce qu'on peut appeler une raison psychanalytique, d'un discours donc de la psychanalyse. En parodiant le Lacan du séminaire Les Psychoses, et cherchant à ce moment-là à définir ce qu'était la poésie, on pourrait dire, en tout cas je le propose en parodiant Lacan, qu'un discours, en réalité, c'est la création d'une raison assumant un nouvel ordre de relations symboliques au monde. Donc ça, c'était pour le premier point, la première partie, le tout début du texte que j'avais à commenter. Alors, maintenant, après avoir posé cette équation raison égale discours, Lacan rappelle les quatre discours qu'il a distingués, donc celui du maître, de l'hystérique, de l'universitaire et de l'analyste. Je soulignerai ici que, comme il a pu le faire avec l'identification du discours à l'idéologie ou l'identification du discours à la culture, ce à quoi Lacan nous invite ici, c'est à écarteler la raison sous la forme de quatre raisons ou quatre discours. Seulement, si en décembre 1975, dans ses entretiens dans les universités nord-américaines, il ajoutera « mais bien sûr, ce n'est pas limitatif », ici, concernant les quatre discours, il s'efforce de formuler la raison pourquoi il n'y en a que quatre. S'il n'existe que quatre discours, au sens des discours radicaux ou discours établis, il a plusieurs manières comme ça d'appeler ces discours-là, c'est en raison du dernier-né parmi ces discours, c'est-à-dire c'est en raison de l'avènement du discours analytique, dont la structure exhibe que le discours du maître, donc le discours de l'inconscient, en constitue le strict envers. Le problème, que pose une telle présentation, vous l'aurez anticipé, qui introduit donc un ordre de succession dans les discours, c'est de faire des discours, ce que Lacan appelle ici justement, je le cite, une suite d'émergences historiques. Difficile pourtant, je crois que tout le monde s'est confronté à ce problème, difficile pourtant de maintenir simultanément la perspective structurale et la perspective historique concernant les discours. Difficile, par exemple, de faire tenir ensemble l'idée que, par exemple, la science est la condition de la psychanalyse et celle qui soutiendrait une contemporanéité stricte entre le discours hystérique et le discours de l'analyste, par exemple. On pourrait en discuter. D'ailleurs, ce n'est pas ce que Lacan dit. Plutôt que de dire que les quatre discours émergent simultanément, il commence par minorer, par minimiser l'importance que l'on pourrait accorder au fait que, je le cite, l'un soit apparu depuis plus longtemps que les autres, et notamment que le discours du maître soit là bien avant le discours universitaire ou le discours hystérique, et encore davantage le discours analytique. Et c'est donc à ce point qu'il sort son joker, si je puis dire, en proposant, je le cite, « de ce discours psychanalytique, il y a toujours quelque émergence à chaque passage d'un discours à un autre. » Il y a, de ce discours psychanalytique, il y a toujours quelque émergence à chaque passage d'un discours à un autre. J'en viens à mon troisième développement, donc, cette proposition selon laquelle, du discours analytique, il y a émergence, il y a quelque émergence à chaque passage d'un discours à un autre. Cette proposition, donc, peut être prise comme une sorte de solution au problème de l'articulation de la structure et de l'histoire dans la théorie des discours. C'est quelque chose qu'on a évoqué plusieurs fois à l'occasion des dernières journées, par exemple. Cependant, on ne peut pas ne pas remarquer le flou de la formule. Il y a toujours quelque émergence de ce discours psychanalytique, etc. La question à se poser ici est donc bien, qu'est-ce que Lacan appelle émergence du discours psychanalytique ? Mieux, comment concevoir que le discours psychanalytique puisse émerger avant l'institution de la psychanalyse comme pratique et le lien social qui s'en établit ? Alors, c'est peut-être là qu'il convient de suivre le conseil de Lacan et donc de dresser l'oreille à la mise à l'épreuve de ce qu'il n'hésite pas à appeler une vérité, cette idée de l'émergence du discours analytique à chaque passage d'un discours à un autre, puisque Lacan ajoute, et je crois que c'est un moment clé dans l'articulation de sa thèse, « Je ne dis pas autre chose en disant que l'amour, c'est le signe qu'on change de discours. » Donc, le passage intégral, c'est il y a de l'émergence du discours analytique à chaque franchissement d'un discours à un autre, je ne dis pas autre chose en disant que l'amour, c'est le signe qu'on change de discours. Alors, Lacan semble donner ici l'extension la plus large possible à la notion ou au concept de discours analytique, puisqu'il ne le fait pas équivaloir au sens strict de la pratique analytique, ni au lien social que cette pratique instaure entre un analysant et un analyste. Je dirais que le syntagme du discours analytique renvoie ici à l'amour. Non pas à l'amour divin, à l'amour mystique, à l'amour courtois ou à l'amour romantique, non pas donc, mais à l'amour tel que la psychanalyse en extrait le concept à partir de l'expérience du transfert. Et ce, avec une conséquence, un signe, que Lacan ne soulignera que beaucoup plus tard, et je termine sur cette citation de Lacan que je tire du texte de son introduction à la traduction allemande des écrits, me semble-t-il. Donc Lacan écrivait ceci: « C'est pourquoi le transfert est de l'amour, un sentiment qui prend là une si nouvelle forme qu'elle y introduit la subversion, non qu'elle soit moins illusoire, mais qu'elle se donne, partenaire qui a chance de répondre, ce qui n'est pas le cas dans les autres formes. » Voilà, je vous remercie. Alors, donc on va passer au deuxième exposé, et c'est Anne-Marie Combe qui va nous parler de l'écrit de jouissance.
Alors, dans Le plaisir du texte, Roland Barthes expose les différences entre ce qu'il appelle un texte de plaisir et un texte de jouissance. Le texte de plaisir, dit-il, est celui qui contente, emplit, donne de l'euphorie. Celui qui vient de la culture ne rompt pas avec elle, est lié à une pratique confortable de la lecture. Le texte de jouissance, celui qui met en état de perte, celui qui déconforte, fait vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques du lecteur, la consistance de ses goûts et de ses souvenirs, met en crise son rapport au langage. L'homme au rat avouait un jour à Freud qu'il utilisait une formule de défense consistant en un mot magique composé des premières lettres des prières les plus efficaces et qu'il avait complété d'un « Amen ». Il ne s'était pas rendu compte que ce mot était l'anagramme du prénom de sa bien-aimée de l'époque. Dans ce mot, il avait intercalé la lettre « S », mettant ainsi en contact, selon l'interprétation de Freud, le nom de son amie avec le sperme. De fait, il s'était masturbé en pensant à elle. Donc l'usage de la lettre, puisqu'il fallait l'écriture pour pouvoir composer ce mot, servait ici de défense contre la jouissance, mais en même temps en constituait un indice. C'est d'un tout autre usage dont il s'agit chez Clarice Lispector, une écrivaine brésilienne, qui en écrivant cherche à cerner le réel de ce qui fait la vie et le monde, en tentant de venir border le lieu vide de l'autre. Faisant référence à une expérience d'enfant au cours de laquelle elle disait « apprendre lentement à être aimé », supportant le sacrifice de ne pas le mériter seulement pour atténuer la douleur de celui qui n'aime pas, elle évoquait aussi d'autres raisons. Je la cite « Ou parfois, c'est de mon cœur que d'autres griffes, pleines de dur amour, ont arraché la flèche barbelée et sans dégoût de mon cri. » C'est cette phrase qui m'a conduite à donner son titre à mon intervention de ce soir, « Le cri et l'écrit » ayant alors équivoqué. Et en cherchant une référence, j'ai retrouvé le titre donné à l'éditorial du numéro 56 par Miyuki Oishi, « L'écrit, décrit, l'écrit ». Donc le titre du premier livre publié par Clarice Lispector a pour titre « Près du cœur sauvage ». Et il est extrait d'une citation du portrait de l'artiste en jeune homme. Je donne la citation « Il était seul, il était abandonné, heureux, près du cœur sauvage de la vie ». C'est en effet le pourquoi de la vie et du monde qu'elle explore dans son œuvre, à travers un travail rigoureux et créatif portant sur la langue. Lors d'une journée des enseignants du CCPSO, j'avais évoqué l'un de ses derniers livres, Agua Vive. Alors, je ne sais pas parler portugais, hélas, dans lequel elle décrit une extase surgie sans raison, hors de toute médiation ou religiosité. Je la cite, « J'avais fini de prendre mon café et j'étais simplement en train de vivre là, assise avec une cigarette se consumant dans le cendrier. » Poursuivant mes lectures, j'ai ensuite trouvé la même description de cet état de grâce dans une des chroniques qu'elle écrivait pour le journal do Brasil, datée du 6 avril 1968, donc pas dans un roman et un texte dans lequel elle emploie le jeu. Et puis plus tôt encore, en octobre 1946, alors qu'elle était à Berne, elle en faisait état dans une lettre à un de ses amis, en réponse à un rêve dont il lui avait fait le récit et dans lequel il avait oublié le nom d'une bête sauvage. Elle lui répond alors que ce nom, s'il ne l'avait pas oublié, ne serait pas un mot clair, mais un mot inconnu, un dont à nouveau il nous faudrait dire « c'est un symbole ». Quand bien même ce serait cette fois-ci le dernier symbole, le plus proche du nom réel, et non le symbole du symbole du symbole, comme sont les autres mots. Elle lui écrit alors qu'elle est parfois dans un état de grâce tellement suave qu'elle ne veut pas le briser pour l'exprimer et qu'elle ne le pourrait pas. Cet état de grâce, précise-t-elle, n'est rien d'autre qu'une joie que je ne dois à personne, pas même à moi. Une chose qui arrive comme si on m'avait montré l'autre face des choses. Si je pouvais voir plus longtemps cette face, et si je pouvais la décrire, tu verrais quel est le nom de la bête sauvage que tu as oubliée dans ton rêve. Elle précise la nature de cet état dans le texte des chroniques. Qui a déjà connu l'état de grâce reconnaîtra ce que je vais dire. Je ne me réfère pas à l'inspiration, qui est une grâce spéciale et qui échoit si souvent à ceux qui se consacrent à l'art. L'état de grâce dont je parle n'est à aucun usage. C'est comme s'il venait seulement pour qu'on existe réellement. Dans cet état, outre le bonheur tranquille qui rayonne de personnes et de choses, il y a une lucidité que je trouve légère, seulement parce que dans la grâce, tout est tellement, tellement léger. C'est une lucidité de qui ne devine plus, sans effort, il sait. Rien de plus, il sait. Ne me demandez pas quoi, car je ne peux que répondre de la même façon enfantine, sans effort, on sait. Et il y a une béatitude physique qui ne se compare à rien. Le corps se transforme en un don, et on sent que c'est un don parce qu'on expérimente d'une source directe l'offrande indéniable d'exister matériellement. Elle évoque bien sûr la comparaison avec les mystiques, mais n'y reconnaît pas ce qu'elle a ressenti, puisque c'est tout au plus l'état de grâce d'une personne banale qui soudain devient totalement réelle, parce qu'elle est banale et humaine et reconnaissable. Donc il n'y a pas... Pardon. Elle précise qu'il n'y a pas de transe ni d'ange qui apparaissent. Les découvertes faites dans cet état sont indicibles et incommunicables. La sortie se fait lentement et à regret, car ayant fait l'expérience d'acquérir un corps et une âme sur la terre, on veut encore bien davantage. Elle précise que le vouloir n'est pour rien dans la survenue de ces états, et que d'ailleurs, elle trouve normal que cet état ne soit pas donné fréquemment. La tentation de passer de l'autre côté de la vie, qui est également réelle, les personnes ne comprendraient jamais. Pour d'autres raisons encore, le risque de devenir indifférente à la souffrance humaine dans une attitude contemplative, comme les fumeurs d'opium, précise-t-elle. Et cela représenterait une fuite impardonnable devant le destin humain qui est fait de lutte et de souffrance, et de perplexité et de petites joies. Alors la récurrence du récit de cet événement dans son œuvre me semble indiquer l'importance qu'il a eue pour elle. Si elle le reprend à plusieurs reprises, ce n'est que dans Agua Viva qu'elle dira vouloir saisir ce qui lui est arrivé en utilisant les mots, sachant ainsi qu'elle va détruire un peu ce qu'elle a senti, mais c'est fatal. Elle indique donc par là qu'elle sait que le symbolique ne recouvre pas tout du réel et qu'il y aura un reste. Elle intitulera sa réflexion « En marge de la béatitude » et elle y explique comment celle-ci commence au moment où le « penser-sentir » qu'elle écrit avec un trait d'union, où le « penser-sentir » a dépassé la nécessité de penser de l'auteur qui se trouve alors près de la grandeur du rien. Bien avant Agua Viva, elle avait repris cette expérience en l'attribuant dans un apprentissage ou le livre des plaisirs en deux mots, hein, à une jeune femme, Laurie, dont elle relate l'évolution à travers la rencontre avec un homme. L'importance pour elle de cet ouvrage est soulignée par la phrase qu'elle place en exergue. Ce livre, alors qu'elle écrit en majuscule, et c'est quelqu'un qui était très attaché à la typographie, qui corrigeait même les traductions, puisqu'elle connaissait le français, entre autres. Ce livre s'est demandé une plus grande liberté que j'ai eu peur de lui accorder. Il est très au-dessus de moi. Humblement, j'ai essayé de l'écrire. Je suis plus forte que moi. La quatrième de couverture indique d'ailleurs que c'est à partir d'éléments autobiographiques que ce récit est construit, ce que confirme la lecture de la biographie écrite par Benjamin Moser. Si j'ai choisi de parler plus précisément de ce texte, c'est qu'il me paraît être dans le fil des questions travaillées dans ce séminaire. En effet, il s'agit d'une rencontre amoureuse et des étapes que va traverser la jeune femme avant de se retrouver dans le lit d'un monsieur, mais surtout de la manière dont l'état de grâce lui ouvre la possibilité de cette relation empêchée jusque-là. Je voudrais souligner déjà que le récit, c'est très étonnant, commence par une virgule que suit une phrase de 3 pages sans point, mais avec des paragraphes qui commencent sans majuscule non plus. Ce que je disais, elle a une manière très particulière d'user de la typographie et elle demandait d'ailleurs à un linotypiste de ne pas modifier la ponctuation de ses textes parce que c'était la respiration de la phrase, de sa phrase à elle. Dans ces pages, donc, Laurie se demande ce qu'Ulysse, c'est un homme professeur de philosophie, attend d'elle et comment y répondre. Notamment, comment elle pourrait parvenir un jour à répondre selon son vœu à lui, à qui demanderait son nom. Elle devrait répondre « Mon nom, c'est moi ». Suite une série de rencontres au cours desquelles il tente de la faire réfléchir sur sa position. Il faut savoir qu'Ulysse est par ailleurs le prénom d'un analyste qu'elle avait consulté quand elle séjournait à Berne et qui avait cessé de la rencontrer parce qu'il était tombé amoureux d'elle. Donc, dans le roman, donc, Ulysse cherche à faire réfléchir Laurie à sa position, l'amenant à prendre la mesure de sa peur devant le désir. Je ne peux entrer là dans les détails de cet apprentissage et je vais reprendre au moment du récit de l'état de grâce attribué au personnage de Laurie. Ce n'est qu'après la description de cet état que va se produire la rencontre sexuelle entre Laurie et Ulysse. Il la met en demeure de se manifester si elle accepte, disant qu'il ne lui téléphonera plus, mais qu'il attendra qu'elle vienne d'elle-même. À quelques nuits de là, elle se réveille soudain avec la conscience que, à cette heure de la nuit, elle connaissait ce grand effarement d'être vivante, n'ayant comme seule consolation que la déréliction d'être vivante. Après avoir regardé tomber la pluie, avec la seule sensation d'être vivante donc, elle sentit subitement le désir d'Ulysse et son propre désir, et il lui vint l'envie extrême de donner cette nuit si secrète à quelqu'un. Elle part alors le rejoindre. qu'elle dit de la relation sexuelle, c'est qu'elle a eu la sensation de perdre tout le poids de son corps, comme une figure de Chagall. Après l'amour, elle éprouve la conscience de se savoir comme jamais, savoir sans pitié, ni joie, ni accusation, et qu'elle compare à quelque chose de l'ordre du divin, mais ce savoir soi-même était surnaturel. Elle ne pouvait transmettre cela à son compagnon parce qu'elle n'avait pas le don de la parole et elle ne pouvait pas expliquer ce qu'elle sentait ou ce qu'elle pensait, d'autant qu'elle pensait presque sans mots. Je la cite, la solution à cet absurde qui s'appelle « j'existe », la solution c'est d'aimer un autre être dont nous comprenons que lui, il existe. Que dit-elle encore de cette jouissance qu'elle éprouve ? Elle perdit conscience d'où elle se trouvait. C'était un chaos et une nébuleuse si merveilleuse qu'elle serra la main d'Ulysse afin que quelqu'un la retienne sur terre. Sur l'amour, elle pose alors cette question. Aimer serait-il alors offrir à l'autre sa propre solitude ? Car c'est la chose la plus extrême qu'on peut donner de soi. Ce qui résonne bien avec ce que relevait Colette Solaire dans ce que Lacan disait des femmes, sur la relation de sujet à sujet, cette nouvelle définition de l'amour, que Lacan réfère à l'opaque perception de la façon dont chacun est affecté par son destin de solitude. On peut remarquer, en lisant le texte, que cet amour coïncide pour Laurie avec un changement que j'appelle changement de discours. Alors que dans un premier temps, toutes ses pensées étaient orientées par la manœuvre hystérique visant à se faire désirer par Ulysse, lui adressant des questions afin qu'il lui dise qui elle était, mais elle savait que pour le moment, elle n'avait rien à lui donner si ce n'est son propre corps. Et même pas son propre corps peut-être, car avec les amants qu'elle avait eus, en quelque sorte, elle prêtait seulement son corps à elle-même pour le plaisir. Ce n'était que cela et rien de plus. Au moment où elle se rend compte qu'elle éprouve de l'amour pour Ulysse, elle lui renouvelle la question « Qui suis-je ?» Il lui répond alors qu'il ne peut se poser la question pour lui-même sans être perdu. Cette réponse, par laquelle il lui fait sentir que l'autre ne répond pas sur cette question, l'effraie et elle se met alors à faire la liste des choses qu'elle pourrait faire. Elle en conclut qu'il y a un nombre infini de choses qu'elle peut faire, mais qu'elle ne savait toujours pas qui elle était, ni ce qu'elle était. Et elle ajoute quand même, « Une féroce parmi les féroces humains, nous, les singes de nous-mêmes, jamais nous n'atteindrons en nous l'être humain, car se départir de la férocité était un sacrifice. » Pendant un temps ensuite, n'ayant besoin de personne, il lui suffisait de savoir qu'Ulysse l'aimait et qu'elle l'aimait, outre le fait d'être envahi par un amour neuf pour les choses et les personnes. Donc le changement de discours se manifeste aussi par la façon dont elle sera allée le retrouver, de sa propre initiative, mais sans aucun des artifices imaginaires utilisés jusque-là pour le séduire. Elle prit dans son sac l'adresse et sans aucun maquillage, ses cheveux courts tombant sur son front et sa nuque, elle sortit à la recherche d'un taxi. Tout avait été si intense et rapide qu'elle n'avait même pas eu l'idée d'enlever sa chemise de nuit ni de se maquiller. Le texte se termine par deux points placés à la suite d'un propos attribué à Ulysse en réponse à une question sur ce qu'il pense. Alors, c'est que ça finit comme ça. Voilà ce que je pense. Deux points, et puis plus rien. Ceci nous indiquant que le vide de l'autre n'est pas prêt d'être comblé, ce que va confirmer la suite de son œuvre.
Merci. Merci Anne-Marie. Donc, troisième temps, l'exposé de Stéphane Habib. Oui, bien sûr.
Mais, c'est embarrassant. C'est...
Ouais. Oh, pardon. Voilà. Te fais de la place.
On entend ? On entend ? Oui. Donc, je parlerai du langage. d'une structure de langage, je parle de langue et de la langue, et aborder cela, c'est entrer dans un corps de texte interminable, dans plus d'un texte à la fois, évidemment, et c'est aussi être abordé, et c'est aussi aborder, pardon, et être débordé par l'écriture. C'est qu'il y va ce soir de la logique affolée de l'amour, du jeu de la lettre de l'amour et dans l'amour, de la lettre d'amour. La lettre d'amour, qu'elle soit ou non ce qu'on appelle une correspondance, précisément parce qu'il n'y a d'amour, de langage comme de lettre, que ce qui s'adresse. Il n'y a peut-être de langage qu'adressé. Et l'amour s'adresse. Je ne dirai sans doute rien d'autre ce soir. Bon, je viens de voir. Okay.
Commence la discussion.
Merci. Donc, c'était écrit S apostrophe. Hein, l'amour s'adresse. Voilà. C'était ma seule blague et je l'avais pas prévu évidemment. C'est ça qui est bien évidemment. C'est important de savoir à qui on s'adresse quand on fait ce genre de. Donc, on y va. Donc l'amour.
On dresse l'oreille.
L'amour, ce sera donc notre question, celle qui nous arrive depuis le banquet de Platon et relayée par Lacan. Alors, qu'est-ce que le banquet, le texte, sous-titre de ce texte, de l'amour ? Eh bien, alors, on doit aller très vite, donc évidemment, je vais être très très schématique. C'est une suite d'éloges d'amour. Je commence par le dire comme cela pour que revienne à l'esprit que c'est de prime abord d'un dieu qu'il s'agit, sous le nom amour. Mais on peut aussi dire que le banquet est une suite d'éloges de l'amour. On ne peut qu'être frappé de ce parallèle que l'amour et son désir, d'après Socrate, n'existent que du manque, et qu'aimer, d'après Lacan, c'est donner ce qu'on n'a pas, entendre également ce qui manque. Et partant, cause et fait causer le désir, et il convient alors toujours d'ajouter « sans le savoir ». Bref, autour du manque s'articule l'amour et que, par ailleurs, autre terme du parallèle Socrate-Lacan, c'est parce que amour manquait sérieusement d'éloge qu'il se voit pris comme objet par les convives du banquet. Question de structure, disais-je, corrélant l'amour et l'éloge à amour consacré, la parole à amour adressée, bref, l'adresse d'amour. Il est frappant de lire et de comprendre dans Platon comment l'articulation, comme toujours, tourne autour d'un manque, de ce qui manque. Narré par Aristodème, Eryximaque parle en faisant par sa bouche parler Phèdre, pointant le manque. Je parlerai pour commencer, là je cite Platon, enfin je cite le banquet, je parlerai pour commencer à la manière de Mélanippe d'Euripide, car ce discours n'est pas de moi que je vais prononcer, mais de Phèdre ici présent. À chaque instant, en effet, Phèdre s'indigne et me dit « N'est-il pas étrange, Eryximaque, que pour d'autres dieux il y ait des hymnes et des péans composés par les poètes, et qu'en l'honneur de l'amour, ce dieu si puissant et si grand, jamais encore un seul poète parmi tous ceux qui ont existé n'ait composé le moindre éloge ?» Mais je saute, évidemment. « Mais l'amour, lui, n'a trouvé personne qui ait eu jusqu'à présent le courage de le chanter comme il le mérite. Voilà comment on néglige un si grand dieu. » Sur ce point, je crois que Phèdre a bien raison. Je désire donc, c'est pas moi qui parle, hein, je désire donc pour ma part à la fois lui apporter ma contribution et lui être agréable. Et en même temps, il nous convient maintenant, je crois, à nous qui sommes ici, d'honorer le Dieu. Je crois en effet que chacun de nous doit, en allant de gauche à droite, prononcer un éloge de l'amour, le plus bel éloge dont il sera capable. Alors, on pourrait rétorquer que éloge n'est pas adresse, fût-ce éloge d'amour. Pas adresse à, mais discours consacrant, célébrant, louant, discours sûr. Toute la question de ce que j'appelle l'adresse se relance ainsi. Si je dis de prime abord qu'il est décidé de consacrer amour par des éloges, c'est que ce n'est pas tout. C'est qu'il va y avoir du changement, que de la vie risque de rentrer et rentrera dans ce cadre de prime abord peu fluctuant, figé, normé, décidé qu'est le banquet. Mais la décision ne prévoit jamais l'imprévisible, l'arrivée, l'arrivant ou l'événement. Et en effet, qu'un certain Alcibiade arrive avec fracas, fasse irruption, et d'un coup, c'est à Socrate, c'est sur Socrate que le discours va porter. Portée disruptive de l'arrivée d'Alcibiade, bouleversement d'une arrivée comme ce à quoi on ne s'attendait pas et qui vient déranger. C'est peut-être cela, l'arrivée de l'amour, l'interruption, la disruption, le bouleversement du cours des choses contre toute attente. C'est quelque chose, dit Lucien Israël dans son séminaire qui s'appelle « Pulsion de mort », c'est quelque chose qui vient se manifester dans la vie de tous les jours et qui fait grincer la machine. Le grain de sable, c'est ça l'amour. Ce qui arrive avec l'arrivée d'Alcibiade, c'est précisément l'arrivée de ceci qu'après tout, même dans un éloge, et même et surtout dans un éloge qui est consacré à l'amour, on ne sait sans doute jamais qui parle, entendre qui parle et à qui cela s'adresse. On aurait beau jeu ici de rétorquer que, tel que programmé, le banquet, dans son principe, est explicitement éloge à un certain dieu, amour. L'éloge d'un dieu supposé, est-ce autre chose qu'un discours de louange ? Louer, dire le bien, glorifier, célébrer, bénir, et voici donc surgir ce qu'on appelle aussi la prière. La prière, donc, loge toujours au sein de l'éloge. Et les questions se déplient d'elles-mêmes. Creusons davantage encore ce que j'essaie de dire de l'adresse. Saura-t-on jamais ce que c'est que prier ? Qui prie ? Qu'est-ce que prie ? Demande, désire une prière. Et vers qui la parole de prière ? Et pourquoi ? Pour dire quoi ? À qui ? Que peut bien vouloir dire envoyer, destiner une parole à un Dieu ? À Dieu. Sait-on même seulement ce que l'on dit et ce que l'on veut dire en convoquant, invoquant et provoquant ce qu'on appelle un Dieu ? Dieu. Et il m'est très facile ici, puisque Lacan accompagne chacune des petites avancées sur ces questions, mais très facile de faire glisser ce Dieu au dire. Rappelons cet étonnant et très marrant passage, il faut l'écouter, de la troisième. Descartes, lui, ne s'y trompe pas, c'est Lacan qui parle. Dieu, c'est le dire. Je ne sais pas imiter, mais ce qu'il fait est génial. Il voit très bien que Dieu, c'est ce qui fait être la vérité, ce qui en décide à sa tête. Il suffit de Dieu comme moi. Le dire, donc, n'est pas un vocable simple. Le dire est précisément ce qui ne se dit pas. Le dire, le Dieu, ne se dit pas. Et ce qui ne se dit pas appelle l'appel. L'appel de Dieu dans la prière, qui ne sait pas ce qu'est l'appel en appelant Dieu. Tout comme se dit qui ne sait pas le dire qu'il dit, qui s'échappe de lui et malgré lui en disant. Appelant donc la réponse de Dieu en l'appelant, en appelant, en prononçant le mot, le nom de Dieu. Répondant à l'appel d'un Dieu en le louant, allez savoir. Précisément, le savoir est dans la prière, comme dans toute adresse, un comme si. On ne prie peut-être qu'en faisant comme si on savait ce que l'on faisait en priant. Mais de même, on ne dit qu'en faisant comme si on savait ce que l'on disait en disant, et comme si, bien sûr, l'on savait ce que l'on voulait dire, ce que veut Dieu s'entendre dire, fût-ce simplement ce nom, son nom, un de ses noms de Dieu, amour dans le banquet, mais sans savoir encore vraiment ni qui est, ni ce que veut dire amour, ni qui est, ni ce que veut dire Dieu, ni même s'il y a quelque vouloir dire possible, et de qui, venant de qui. Eh bien, cette incertitude-là, vertigineuse, c'est cela l'adresse en question, je le pense, dès qu'il y a du langage. L'éloge n'y échappe pas, d'autant plus lorsqu'il y va de l'amour. Il n'y a peut-être pas d'amour sans adresse, pas d'amour autrement qu'adressé. Dans quelques instants, je citerai Roland Barthes et la beauté fulgurante d'un texte qui tourne autour de l'amour, toujours inscrit, toujours dans l'adresse. Toujours, qu'on le sache ou non, qu'on le souhaite ou non. Mais avant, j'en reviens à Lacan, dans Encore, précisément pour la raison que dans ce séminaire, pour parler de l'amour, il ne trouve pas mieux à faire qu'à en dire l'adresse, qu'à utiliser le langage en tant qu'il s'adresse entre l'amant et l'aimé, entre l'Érastès et l'Héroménos, comme il les appelle. Oui, l'amour y est dans ce texte, l'adresse même, l'adresse d'amour de l'un à l'autre, entre l'un et l'autre, ce qui passe, ce qui se passe entre l'un et l'autre. Je cite, tout le monde connaît ça, « Je te demande, quoi ? De refuser, quoi ? Ce que je t'offre, pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça. Ça, vous savez ce que c'est l'objet A. » Donc, évidemment, c'est très compliqué à lire et demande à être un peu débrouillé. C'est exactement ce que je ne vais pas faire maintenant. Mais à partir de là, à partir de cet amour-là, donc de cette adresse-là, de cette adresse d'amour écrite par Lacan, je voudrais poursuivre sur cette structure, précisément. Bien sûr, le discord, le différent, s'inscrit alors d'emblée dans l'écriture de l'amour. Et ceci, ai-je tendance à penser, pour la raison que la langue, le parler-être, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou l'ignore, s'adresse toujours. Et voici alors mes questions. Elles habitent nécessairement cette interrogation, pour autant que l'autre, grand A, y est en jeu dans l'amour, y est en jeu de l'amour et de son désir. Il n'y a, n'est-ce pas, de désir que désir de l'autre. Ce qui me suffit donc à l'écrire ce désir, impossible, en ceci que, dès que l'on croit savoir, dès lors que l'on croit pouvoir dire qui est l'autre en question, on peut être sûr d'être déjà passé à côté, de n'en pas parler de l'autre. Au mieux sera-t-on en train de construire quelques théories au sujet du semblable. L'autre, grand A, échappe au dit s'évertuant à la réponse du qui est l'autre, fût-ce sous la forme négative. Évidemment, ce que l'autre n'est pas est encore un abus de langage, fût-ce donc sous la forme d'une hétérologie négative ou de toute théologie négative. Le désir alors se creuse de cet impossible, de cet autre impossible, et l'adresse ne cesse pas de s'adresser. Il faudrait, en vérité, suivre du début à la fin, ligne à ligne, les pages 206 et 207 du transfert, le séminaire 8. Évidemment, je ne vais pas le faire, je sais que ça vous attriste beaucoup, mais je voudrais extraire un bref passage dans lequel je me permets d'insérer quelques commentaires qui nous portent à la structure inscrite en nécessité dans le langage, à savoir l'adresse. A, grand A, est défini par nous comme le lieu de la parole, c'est Lacan. Ce lieu toujours évoqué dès qu'il y a parole, ce lieu tiers qui existe toujours dans les rapports à l'autre, petit a, dès qu'il y a articulation signifiante. Je saute un passage. Or, c'est à la question posée à l'autre, grand A, de ce qu'il peut nous donner et de ce qu'il a à nous répondre que se rattache l'amour comme tel. Ici, je ne peux que m'arrêter pour répéter ce que je viens de lire avec d'autres mots, souhaitant vivement faire entendre la prégnance de la question qui guide et accompagne l'écriture de ces pages, du transfert, et ne peut que guider, me semble-t-il, quiconque essaierait de toucher à l'amour, au désir, au langage, à la structure, à l'inconscient, à la langue, au parler-être, mais encore à l'écriture, donc l'adresse. Ce que vient de déployer Lacan, c'est que l'amour se rattache toujours à l'adresse. Et j'ajoute avec Lacan, à l'adresse à l'autre et à l'adresse de l'autre. Non pas, poursuit Lacan, que l'amour soit identique à chacune des demandes dont nous l'assaillons, mais il se situe dans l'au-delà de cette demande. Là, je coupe encore la parole à Lacan pour décrypter un peu et pour insister, pour préciser. Qu'est-ce que c'est que l'au-delà de la demande ? Et qu'est-ce que c'est que la demande ? Bon, pour répondre vraiment à cette question, il faudrait une petite année de séminaire. Cependant, comment ne pas rappeler que Lacan fait très nettement entendre que toute parole est une demande ? Voilà qui n'est pas sans appuyer cela que j'avance comme étant la structure même du langage, c'est à savoir l'adresse. En effet, que la demande demande, disons, sachant qu'elle demande, et ce qu'elle demande, ou qu'elle l'ignore, et s'ignore comme telle, donc comme demande, elle est et reste tout le temps une adresse. Mais maintenant, et juste pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui est en train de se jouer, je vais me contenter de ressaisir ce qu'enseigne Lacan. Encore plus schématique que jamais, excusez-moi. La demande, c'est l'au-delà du besoin, et l'au-delà de cette demande même, eh bien, c'est le désir. Donc, que Lacan dise que l'amour se situe dans l'au-delà de cette demande, ou bien que je dise avec Socrate, par exemple, que l'amour est à situer dans le désir en demandant ce que l'amour aime et ce que l'amour désire, revient strictement au même. Reprenons la phrase de Lacan là où je l'ai coupée. En tant que l'autre, dit-il, peut nous répondre ou non comme dernière présence. Mais alors, qui l'autre? Ça, c'est moi qui demande. Et que peut vouloir dire une présence de l'autre, fût-ce la dernière? Notons encore l'au-delà de la demande comme ce qui donne ce caractère vertigineux de l'adresse, celui qui pose la question de ce qu'adresse l'adresse, et bien sûr, Lacan y vient. Tout le problème, dit Lacan, est de s'apercevoir du rapport qui lie l'autre auquel est adressée la demande, c'est Lacan qui le dit, auquel est adressée la demande d'amour à l'apparition du désir. Et voilà donc que... Qu'est-ce que j'ai dit? D'accord. Donc je disais que... j'ai dit voilà donc après. Mais en fait, donc c'était ça. Tout le problème, c'était là. Et Lacan dit, l'autre n'est alors plus du tout notre égal. Et donc, ça, c'est Lacan qui dit, l'autre n'est plus du tout notre égal dans ce rapport-là. Et donc, j'ai commencé par là. C'est à savoir que l'autre ne l'a jamais été, notre égal. Et c'est bien pourquoi ce qui est dit, mais ne se laisse dire, c'est l'autre dont le grand A barre le semblable. Qu'il ne soit pas notre égal invite à penser le rapport, s'il y en a, ou plutôt si l'on peut encore appeler ça un rapport, ce rapport à l'autre comme asymétrique dans l'amour. Donc si j'ai commenté à l'intérieur même de la citation, c'est parce qu'il me semble qu'il y a là une idée, une pensée que l'on ne souligne pas assez, en général, dans les lectures de Lacan. Alors même qu'on répète à l'envi son inconscient structuré comme un langage, cette idée ou cette pensée peut relever, c'est la structure même de cette structure qu'est le langage, comme toujours, de toujours, ou si vous voulez, toujours déjà adressé. En d'autres termes, l'inconscient est structuré comme un langage, et la structure de ce langage même, eh bien, c'est l'adresse. Et dès la première phrase que je viens de noter dans cette citation, A est défini par nous, dit Lacan, comme le lieu de la parole, ce lieu toujours évoqué dès qu'il y a parole, etc., dès qu'il y a articulation signifiante, ce point est fermement affirmé. Il faut bien prendre la mesure de ce « dès qu'il y a articulation signifiante ». Il est une variation sur le thème du « toujours déjà là » du langage, avant même l'arrivée du sujet. Ainsi peut-on ici entendre quelque chose comme « il n'y a de langage qu'adressé », laissant indéterminée, pour le moment du moins, la question problématique de savoir qui s'adresse à qui. Cette indétermination n'est pas un hasard. Et Lacan ne dit pas là « dès que le sujet parle » ou encore « dès que l'autre parle », mais bien « dès qu'il y a parole » et encore « dès qu'il y a articulation signifiante ». Cette indétermination, donc, cette confusion, cette impossibilité de savoir est une nécessité de structure de la structure, à savoir du langage, à savoir de l'adresse. En effet, s'il n'y a de langage qu'adressé, il y a fort à parier que celui qui s'adresse ne sait pas, pas toujours, non seulement qu'il s'adresse, toujours, mais encore à qui il s'adresse, ni même enfin ce qui s'adresse dans son adresse. Ainsi j'arrive pour finir à l'allusion faite précédemment à Roland Barthes, et c'est évidemment dans les fragments d'un discours amoureux. C'est très beau, à mon avis. On pourra dire, écrit Barthes, que tout propos qui a pour objet l'amour, quelle qu'en soit l'allure détachée, comporte fatalement une allocution secrète. Je m'adresse à quelqu'un que vous ne savez pas, mais qui est là, au bout de mes maximes. Dans le banquet, cette allocution existe peut-être. Ce serait Agathon qu'Alcibiade interpellerait et désirerait sous l'écoute d'un analyste, Socrate. Et là, on reconnaît dans le texte de Barthes, évidemment, l'analyse de Lacan, qui est expressément d'ailleurs mentionnée par Barthes, en marge même de ce texte que je viens de vous lire. Et voici maintenant la parenthèse dont la lecture m'aura enchanté au cours de l'écriture. L'atopie de l'amour, écrit Barthes, le propre qui le fait échapper à toutes les dissertations, ce serait qu'en dernière instance, il n'est possible d'en parler que selon une stricte détermination allocutoire. Qu'il soit philosophique, lyrique ou romanesque, il y a toujours dans le discours sur l'amour une personne à qui l'on s'adresse. Cette personne passa-t-elle à l'état de fantôme ou de créature à venir? Personne, dit Barthes, n'a envie de parler de l'amour, si ce n'est pour quelqu'un. Que peut-on entendre de ce qu'écrit Barthes, sinon ceci, que dès qu'une pensée affleure, dès qu'un mot est soufflé, dès qu'une lettre est tracée, eh bien cela s'adresse, c'est adressé, ça ne peut pas ne pas être adressé, il y aura eu de l'adresse. Pour le plaisir du texte, puisque j'ai parlé de Barthes, et que vous l'avez cité, je glisse le corollaire lévinassien de cette nécessité immémorialement inscrite de l'adresse. Je pense, écrit Lévinas, que toute pensée réside sur des lèvres, déjà portées par le discours vers l'autre. toute pensée loge dans le langage et va à l'autre. Le monologue, dit-il, est dialogue sans réponse. Donc, la langue appelle l'adresse, et c'est pourquoi le motif est insistant. Mais ce n'est pas tout. Ni Barthes, ni Lévinas ne s'aventurent à placer, où que ce soit dans leurs propos, le savoir du destinataire de cette adresse, ce qui n'est pas rien, encore moins un hasard, et relève de ce qu'avec Lacan, j'appelle discord. Le discord du discours. Le discord du discours amoureux que Barthes écrit magnifiquement, en posant que cette personne à qui s'adresse le discours peut fort bien passer à l'état de fantôme ou de créature à venir. Voilà qui est, à mon avis, très beau et très juste. Ainsi dis-je que l'adresse est la structure de langage de l'inconscient structurée comme un langage, et c'est une structure, disons, questionnante. En effet, l'insu est partout inscrit, de celui ou de celle qui parle, à celui ou celle à qui cela s'adresse. Je vous remercie.
Merci à toi, Stéphane. Bien, voilà. Donc, ça vous est adressé. Maintenant, quand même.
On m'a dit faire très vite, j'ai fait très vite.
Bon.
On l'avait que 20 minutes.